Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Deuxième épisode aujourd'hui de notre podcast sur le procès des attentats de janvier 2015. Les premières semaines d'audience consacrées aux parties civiles et au rappel des faits ont donné lieu à des témoignages bouleversants. Code Source vous raconte le début de ce procès hors norme à travers le regard de trois journalistes, Louise Colcombé, Zoé Lovresse et Timothée Boutry, membres du service police-justice du Parisien. Ils se relaient au Palais de justice de Paris pour couvrir les audiences. L'épisode précédent se terminait par des rires dans la salle d'audience, rires provoqués par un dessin de Charb. Zoé Lovresse, le vendredi 11 septembre, viennent s'exprimer les proches du dessinateur Tinius, Bernard Verlac, et du journaliste spécialiste d'économie, Bernard Maris.
On a d'abord Gabriel et Raphaël, les enfants de Bernard Maris, le journaliste économique, qui viennent à la barre. Ils décrivent, ils racontent ce père joyeux, aimant, le père qu'on aurait tous envie d'avoir, et on comprend leur douleur quand ils s'effondrent un peu à la barre, en fait. C'est ce que j'ai voulu raconter ce jour-là, c'est des piliers arrachés à leur famille. Chloé Verlac raconte ça, elle a deux jeunes enfants en 2015, c'est la femme de Bernard Verlac, et elle raconte comment, par exemple, son petit garçon a eu peur après la mort de son père. De plus jamais pouvoir aller à l'école parce qu'en fait c'était son papa qui l'amenait à l'école le matin et pour lui c'était la fin de l'école puisque papa était plus là.
Le lundi 14 septembre, les policiers dont la voiture s'est retrouvée nez à nez avec les frères Kouachi en bas de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, racontent ce qu'ils ont vécu.
On a cette patrouille de la BAC du 11e. À bord, il y a Mathieu, le chef de bord, et il y a Alban qui est au volant. C'est un stagiaire, c'est un tout jeune policier. Et donc, ils reçoivent le premier appel et c'est les premiers policiers sur place. Et donc, ils racontent qu'ils se retrouvent dans la rue et ils se retrouvent face à une voiture. Ils se regardent et ils se disent « Mais c'est quoi cette voiture en face ?» Ils font des appels de phare. Et là, il y a les occupants de la voiture d'en face. Ils ouvrent les portières, ils posent le pied par terre et ils sont armés. Et là, les deux flics, ils racontent. C'est eux.
Je me rappelle comme si c'était hier.
Et ils voient les Kouachi brandir leur kalachnikov et leur tirer dessus.
Le bruit, le feu sort de l'arme. On se couche dans la voiture. Je suis au volant. Je suis couché. Je choisis de passer la marche arrière. Il faut qu'on sorte de cette rue.
Ils sont tête contre tête au-dessus du frein à main. Il n'y a que le bloc moteur, finalement, qui les empêche d'être touchés par des balles.
Le bruit est assourdissant dans la voiture. Le pare-brise est en train de péter de partout.
Il faut bouger. Et puis, il faut aussi se défendre. On a des policiers dans une petite voiture avec des armes de poing et des armes lourdes en face. C'est presque David contre Goliath, finalement.
On est tous blessés. Soit par des éclats de verre, soit par des acouphènes dus au bruit dans la voiture.
Donc le chef de bord, Mathieu, raconte que il arrive finalement à sortir son arme, mais il peut pas tirer par la fenêtre parce qu'il serait à découvert. Donc il tire à travers son pare-brise sur les Kouachi. Ça permet de baisser la cadence des tirs de Kalachnikov, pendant que Alban, lui, il parvient finalement à reprendre ses esprits et à embrayer, à passer la marche arrière, à enfoncer l'embrayage et à faire une marche arrière à l'aveugle pour se tirer de ce piège, en fait.
C'est miraculeux d'être sorti de cette voiture, ni plus ni moins. Il y avait une bonne étoile, je pense, au-dessus de nous trois.
Le mercredi 16 septembre, Louise Colcombé, viennent témoigner les deux gendarmes qui sont arrivés en premier à l'imprimerie de Dammartin-en-Gouël, en Seine-et-Marne, imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi. C'était le 9 janvier 2015 et les deux gendarmes s'en souviennent comme si c'était hier. Leur voiture a essuyé des tirs, des rafales de Kalachnikov de Chérif Kouachi.
Ce qui est fou, c'est qu'on a un peu oublié cet épisode dans le flot de ces journées terribles. Ce sont des gendarmes ordinaires, comme va dire l'une des deux. C'est un équipage d'un homme, une femme. Mais ce jour-là, on les envoie en fait pour une mission de base, c'est-à-dire que leur boulot, c'est d'aller donner le café à leurs autres collègues qui sont tous sur des ronds-points, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les Kouachi sont dans la nature, mais dans cette zone. Ils ont braqué une voiture juste avant les Kouachi dans la forêt de Compiègne, donc on sait très vite qu'ils sont à bord d'une Peugeot 206. Ces deux gendarmes répondent à un appel radio où on leur dit qu'elle a été vue à tel endroit. Donc ils s'y rendent et ils arrivent très vite. La jeune gendarme raconte qu'elle est un peu en vision tunnel, c'est-à-dire elle ne réfléchit pas, elle y fonce. Et ils arrivent à cette imprimerie et ils se garent juste derrière la Peugeot 206. Et là, ils comprennent immédiatement qu'il s'agit des Kouachi. Pour eux, c'est très clair. Et ce qui est très clair aussi immédiatement, c'est qu'en fait, là où ils sont garés, ils sont en plein dans la zone de tir. Le plus chevronné des deux réagit tout de suite et lui dit « Écoute, faut qu'on se mette à couvert ». Ils font très bien d'ailleurs, parce que Chérif Kouachi, il a vu la voiture. Donc il arrive, il tire en rafale. On va voir ensuite des images de cette voiture qui est criblée de 14 impacts de balles. Clairement, s'ils étaient restés dedans, ils seraient morts. Ils se mettent à couvert et le gendarme parvient à toucher Chérif Kouachi, il le blesse. Là, ce qui est très éclairant, c'est qu'il raconte qu'en fait, il peut tirer une deuxième fois. Il sait que si il tue Chérif Kouachi, il se dit son frère va exécuter les otages dans l'imprimerie. Donc, il n'en fait rien. Chérif Kouachi rentre à nouveau dans l'imprimerie. Et pour eux, ils se disent, on leur a fait peur. Et ils vont pas sortir ailleurs parce que c'est une zone industrielle où il y a énormément d'entreprises et ils vont pas faire un carnage à côté.
Tous les deux dénoncent un manque de soutien de leur hiérarchie après cette expérience particulièrement traumatisante.
Le lendemain, ils se retrouvent tous les deux à travailler. Elle raconte qu'elle se retrouve à prendre des plaintes et puis à un moment, elle se demande où, ce qu'elle fait là. Et puis après, il y a eu tous ces mois derrière où en fait, on les a pas soutenus, on leur a pas demandé comment ils allaient vraiment. On leur a vaguement dit d'aller voir un psy. Cette gendarme, elle raconte qu'elle, elle a craqué en fait en service, mais elle l'a caché. Et elle ne voulait absolument pas que sa hiérarchie sache qu'elle allait mal parce qu'elle avait peur de se retrouver étiquetée faible psychologiquement. C'est le genre de dossier qu'on traîne comme un boulet qui vous empêche de bouger et d'évoluer. Son collègue, qui a évité quand même un carnage, faut le dire, il a été décoré, mais il a dû demander à ce que sa collègue soit aussi décorée par la gendarmerie. Ils ont dit qu'ils se sentaient abandonnés, qu'il y avait vraiment eu un manque de suivi et un manque de psychologie de la hiérarchie derrière ces événements.
Ce jour-là, j'étais en train de discuter avec mon collaborateur. On attendait un fournisseur et on a sonné à la porte.
Timothée Boutry, le patron de l'imprimerie, Michel Catalano, va raconter le huis clos dans l'entreprise avec les frères Kouachi pendant plusieurs heures. Il a fait croire aux terroristes qu'il était seul, alors qu'un salarié, un jeune graphiste de 26 ans à ce moment-là, était caché dans un placard sous un évier.
C'est ce qui va être presque le plus marquant dans le témoignage de Michel Catalano, qui va faire preuve d'un sang-froid incroyable.
Et j'ai vu effectivement un lance-roquette et puis une Kalachnikov.
Il va être avec les Kouachi, il va leur parler, il va leur faire un café. Et alors qu'il sait qu'il y a son graphiste qui s'appelle Lilian, qu'il a prévenu, parce que dès qu'il a vu que c'était les frères Kouachi, il a compris, il lui a dit « tu vas te cacher ». Et en fait, lui explique que son unique but à ce moment-là, c'est de préserver Lilian et qu'il n'aura que ça en tête. Tout faire en sorte pour qu'il ne sache pas qu'il est là et qu'il ne le découvre pas.
Et Lilian témoigne à son tour. Qu'est-ce qu'il dit ?
Lilian s'est réfugié sous l'évier, dans la cuisine de l'imprimerie. On a vu les photos. On se demande comment un homme peut rentrer là. Il est resté 8 heures à l'intérieur, recroquevillé, sans bouger, avec cette angoisse absolue que la porte puisse s'ouvrir, qu'il puisse être découvert et qu'il puisse être exécuté, évidemment. Il raconte qu'il n'y avait plus de sang dans ses jambes, plus de sang dans ses bras, qu'il pouvait, au moment où l'assaut est donné, il dit « Non, mais moi, je ne peux pas sortir, je ne pourrais pas sauter par la fenêtre. Est-ce que vous pouvez sortir par la fenêtre ? Non, je ne peux pas, je ne pourrais pas marcher. » On est avec lui. On sent qu'il est ému, parle plutôt d'une petite voix. Et donc, il va raconter cette scène incroyable, celle qui l'a le plus marqué, c'est que l'un des frères Kouachi, sans doute Saïd, rentre dans la cuisine pour se servir un verre d'eau. Et d'abord, il ouvre de plusieurs placards, mais pas le sien. Et il ouvre le robinet et en fait, Lilian est en dessous et il sent l'eau qui coule dans son dos. Le terroriste est à quelques centimètres de lui. Évidemment, il est en apnée et par chance pour lui, il ne découvrira pas sa cachette.
« Le 18 septembre, la Cour d'assises spéciale se penche sur ce qu'il s'est passé à Montrouge le 8 janvier 2015. La mort de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, tuée par Amélie Coulibaly. Louise Colcombé, un employé du service propreté de la ville, chef de service, raconte comment il s'est battu avec le terroriste.
C'est Laurent, un quarantenaire, qui travaille à ce moment-là à la voirie, parce qu'en fait, ce matin-là, il a appelé pour un accident de voiture, un banal accrochage, sur lequel a été appelé Clarissa et l'un de ses collègues. Ils arrivent, ils discutent, ils ne connaissaient pas Clarissa Jean-Philippe d'ailleurs. Elle lui dit ce jour-là qu'elle est très émue parce qu'elle est promue, elle vient de réussir son concours. Et en fait, ils voient arriver Amélie Coulibaly. Ils ont d'ailleurs discuté juste avant de Charlie Hebdo, tout ça est dans leur tête. Et ils voient ce type, baraqué, grand, avec son blouson, là, qui met à l'épaule sa Kalachnikov et qui tire. Et en fait, il a un moment de déni, en fait, il est dans l'incrédulité, et lui tape sur l'épaule, lui dit, mais enfin, ça va pas te faire des blagues comme ça, avec ce qui s'est passé hier.
Il dit ça à Amélie Coulibaly.
Il dit ça à Amélie Coulibaly, c'est complètement surréaliste, hein. Et en fait, il tourne la tête un quart de seconde, il comprend, il voit son collègue blessé à la carotide, il voit Clarissa Jean-Philippe qui gît au sol. Et là, il comprend. Il se dit, OK, le prochain, c'est moi. Si je fais demi-tour, il va m'abattre. Donc, ouais, j'ai pas le choix. Faut que je la grippe. Il a rien. Et là, il raconte qu'il se jette dans un corps à corps avec Coulibaly, qui est un type athlétique, impressionnant. Lui, il est pas très épais. Donc, il s'agrippe. Il raconte qu'il tape contre un grillage, un capot de voiture. Il roule par terre un moment. Et donc, il tombe à genoux un moment. Et en fait, il s'agrippe des deux mains à la Kalachnikov de Coulibaly pour ne pas qu'il tire. Coulibaly finit par s'énerver, parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Il a cette phrase terrible. Il lui dit, ah, tu veux jouer? Bah, tu vas crever. Et donc là, il prend une arme de poing dans son autre poche et il lui assène un coup de crosse sur la tête, pensant le mettre KO. Mais Laurent, il raconte que il tombe pas dans les pommes. Et Coulibaly veut lui tirer en fait dans la tête. Il a cette obsession, pourtant il est à bout portant. Il dit bon, voilà, je suis vaincu. Il va m'achever quoi. Coulibaly, il tire pas. Il range ses affaires, il s'en va. On apprendra en réalité après que Coulibaly, il n'a pas eu de pitié, hein. C'est juste que son arme s'était enrayée.
Est-ce qu'on sait ce qu'Amélie Coulibaly faisait à Montrouge ce jour-là?
Alors on présume qu'Amélie Coulibaly en réalité voulait sans doute s'attaquer à une école juive à 200 mètres du lieu où Clarissa Jean-Philippe est morte. Il ne pouvait pas deviner que ce matin-là il y aurait une présence policière puisqu'on ne peut pas prévoir cet accident de la route. Il a aussi préparé une moto qui est dans une rue adjacente, dont il a fait retirer le traceur juste avant. Ça rappelle évidemment Mohamed Merah, l'attaque à l'école juive de Toulouse. C'est l'hypothèse privilégiée, elle n'a pas été étayée, mais on pense que c'était sa cible véritable.
Le début de la quatrième semaine du procès est consacré à la prise d'otages sanglante de l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris. Les images de vidéosurveillance sont projetées. Elles permettent de reconstituer précisément ce huis clos de 4 heures et 4 minutes. Amélie Coulibaly entre dans le magasin à 13h06 et en moins d'un quart d'heure, il va faire 4 morts. Le jeune employé Johan Cohen, le premier touché, il va agoniser longtemps sous les yeux des otages. 3 clients, Philippe Braham, Michel Saada et Yoav Atab, ce jeune Tunisien qui tente de lui arracher sa Kalachnikov. Louise Colcombé, les survivants se succèdent à la barre. Une poignée d'entre eux avaient pu s'enfuir dès les premières minutes. D'autres se sont cachés au sous-sol, dans la chambre froide, débranchés pour faire moins de bruit. Que racontent ces témoins?
Ils racontent qu'ils sont là, à attendre la mort, dans le noir, avec un bébé de 11 mois dans les bras de son père, avec les surgelés qui décongèlent et l'eau qui leur coule dans les pieds, à guetter le moindre bruit, à faire le moins de bruit possible. Ça, c'est leur obsession. Pendant 4 heures, ils vont essayer de faire jouer un enfant dans le noir, sans rien, pour éviter qu'il pleure. À un moment, ils lui tendent des clés, les clés tombent au sol, ils se disent « ça y est, on est fichu ». Ils lui donnent des bouts de papier, ils essaient de lui sourire. C'est un enfer, mais eux, ils ont le contact avec l'extérieur, parce qu'ils ont leur portable. Donc eux, ils vont pouvoir discuter un petit peu avec les forces de l'ordre.
Il y a aussi les témoignages des otages qui sont restés prisonniers au niveau du magasin avec le tueur.
Les otages, ils supportent la logorée d'Amélie Coulibaly qui justifie ses actes, qui leur tient des propos antisémites absolument horribles. Tous les récits étaient denses, émouvants, précis, poignants. Ils ont tous eu cette idée fixe qu'ils allaient mourir.
Louise Colcombé, le même jour, celui qu'on avait surnommé le héros de l'hypercachère, Lassana Batili, vient à la barre. Il avait aidé les otages à se cacher dans la chambre froide avant de s'enfuir par le monte-charge. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce témoignage ?
Déjà, c'est une bouffée d'air frais quand il arrive. Ça fait du bien après ce qu'on a entendu sur l'hypercacheur. Parce que il a un discours très apaisé, très républicain. Lui-même, il est musulman, pratiquant. Il arrive à 15 ans en France. Il parle pas français. Il passe par tout un tas de difficultés. Il passe finalement deux CAP. Un jour, un ami lui propose, lui dit ça embauche. Donc, il est pris à l'essai dans un hypercacheur et au vu de son investissement, il obtient son premier CDI. Donc, il est extrêmement heureux. Il va travailler à la porte de Vincennes et là il se prend d'amitié tout de suite pour tous ses collègues, notamment Johan Cohen. Johan Cohen, en fait, c'est un jeune qui lui ressemble, ils écoutent la même musique, ils aiment le sport, ils bavardent et finalement cette amitié-là, elle était hyper forte et ce jour-là il a perdu plus qu'un ami, il dit « j'ai perdu un frère ».
La Sana Batili raconte que Johan Cohen avait peur justement d'une agression. Quand il quittait le magasin le soir, Johan cherchait à cacher sa confession.
Oui, il se souvient de deux choses. D'abord qu'il retournait les sacs en plastique de l'hypercacheur pour pas qu'on ne voit le logo. Il mettait une capuche sur sa tête pour pas qu'on voit qu'il portait une kippa. Et la Sana Batili se souvient qu'il lui avait posé la question « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il lui dit « Écoute, je traverse tout Paris pour rentrer chez moi, j'ai peur qu'on m'agresse. » Et la Sana lui avait dit « mais non, mais t'inquiète, il va rien arriver. »
Timothée Boutry, les familles des quatre victimes de l'hypercacher se succèdent à la barre le lendemain, le mardi 22 septembre. Ces hommes et ces femmes racontent que leur vie s'est arrêtée ce jour-là.
Oui, c'était extrêmement poignant parce que il y a la femme de Philippe Braham qui a raconté, voilà, elle dit je suis morte ce jour-là. On a le père de Johan Cohen, Eric Cohen, qui a raconté que depuis ce moment-là, il y a une part de leur vie qui s'est arrêtée. Alors ils continuent, ils sont courageux, mais on a vraiment vu toucher du doigt l'impact du terrorisme en fait.
Comment réagissent les 11 accusés présents à l'audience ?
Pendant toutes ces 3 semaines d'audition de partie civile, ils ont été extrêmement silencieux, en fait. On n'est pas du tout dans un box rebelle. Voilà, y a un grand silence, en fait. Un grand silence partout dans la salle et dans le box.
On rappelle qu'ils clament leur innocence et que leurs rôles respectifs vont être examinés plus tard dans ce procès.
Oui, c'est ça. Ça a commencé à être abordé dans la 4e semaine du procès. Tous disent qu'ils n'avaient absolument pas connaissance des projets d'Amélie Coulibaly et des frères Kouachi, mais qu'ils sont totalement en dehors de ces actes terroristes.
Le 25 septembre, un ancien chef de service de la DGSI, les renseignements intérieurs, témoigne, mais de façon anonyme. Comment ça se passe concrètement ?
Il est à distance, c'est de la visioconférence, donc... Tout ce qu'on voit, c'est une plaque blanche et derrière une ombre, quelqu'un qui parle en bougeant un peu.
Et ce membre de la DGSI, à l'époque, doit expliquer pourquoi les services ont arrêté de surveiller les frères Kouachi 6 mois avant qu'ils ne passent à l'acte.
Il explique qu'à ce moment-là, ils ne représentent pas une menace imminente. Et du coup, ils suspendent la surveillance parce que ils seraient rentrés dans l'illégalité s'ils avaient poursuivi les écoutes, par exemple, de ces hommes-là.
À la fin de ce compte-rendu, Zoé Lovresse, il souhaite ajouter quelque chose qui lui tient à cœur.
Il dit « je tiens à dire quelque chose, nous à la DGSI, c'est des collègues, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est pas qu'une institution, on n'est pas rentré là-dedans parce qu'on a vu de la lumière, et en fait on le sent, sa voix tout d'un coup s'éraille, on sent qu'il devient un peu fébrile, qu'on sent bien qu'il commence à pleurer en fait, ce monsieur derrière cette plaque blanche. » Il dit qu'à chaque attentat, ses services et ses hommes et ses femmes sont touchés, que pour eux, c'est un constat d'échec de ne pas avoir réussi à entraver, à empêcher les attentats. Et là, en l'occurrence, de ne pas avoir réussi à empêcher les Kouachi de commettre cet attentat. Il vient de nous faire un témoignage extrêmement administratif et tout d'un coup, on sent l'émotion qu'il submerge. Et c'est encore une fois de l'émotion dans cette cour d'assises comme on en a depuis plusieurs semaines.
Il est midi moins 10 ce jour-là, donc le 25 septembre. Les téléphones des journalistes vibrent dans la salle d'audience et les salles de retransmission.
Avec Louise, on est dans une salle de retransmission du procès et on reçoit sur WhatsApp, toutes les deux, sur le groupe de notre service, une info, il y a une attaque, rue Nicolas Appert, près des anciens locaux de Charlie Hebdo.
Oui, d'après les toutes premières informations consolidées que nous avons pu recueillir, une attaque donc à l'arme blanche a eu lieu un peu avant midi.
Et là, tout le monde lâche le témoignage du monsieur de la DGSI et on sort et en fait, il y a une suspension d'audience.
Évidemment, ce n'est pas une attaque anodine, on est là pile dans le secteur du premier attentat de janvier 2015.
C'est un peu la stupeur parce que là, l'audience est quand même très lourde, ça fait 3 semaines qu'on entend des témoignages terribles. Et là, on se dit, ça recommence quoi.
Merci Louise Colcombé, Zoé Lovresse, Timothée Boutry. Vos comptes rendus d'audience sont à retrouver chaque jour dans Le Parisien et vous viendrez au micro de Code Source nous raconter la suite de ce procès. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Marion Botorel. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.